National des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach. Un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Nous sommes tous en direct, si. Et donc, c'est l'émission du cirque, comme tous les lundis soirs.
Voilà, de 21h à 22h, j'espère que vous m'entendez bien. Ah oui, si, je m'entends. Voilà, donc, comme tous les lundis soirs, comme disait mon camarade... Avant de commencer notre petite revue de presse, des petites news au sujet du cirque. Juste pour vous dire que normalement, on doit organiser une marche mondiale d'ici un mois, à la fin du mois d'avril. Et on espère pouvoir le faire. On a un peu toujours, hein, je vous disais la semaine dernière, déjà, on a un peu des soucis. On a un camarade qui est dessinateur et qui s'occupe de nous faire affiches, flyers et tout, et ben on a un petit souci, on n'arrive pas à le contacter, ou alors enfin il nous répond pas en tout cas, donc c'est, ça pose quand même problème, surtout qu'on est à un mois de l'événement. J'ai pas spécialement non plus beaucoup plus d'informations sur ce qui se prépare à Paris au niveau du jour, de la date, voilà. Est-ce que c'est le 29 avril, est-ce que c'est le 6 mai, est-ce que c'est le 22 avril, bref, on n'en sait rien, ou même le 13 mai, je ne sais pas, pour l'instant, c'est un peu à l'aveuglette tout ça, et c'est marrant, je n'ai pas non plus beaucoup d'écho de marche mondiale dans le reste du monde ou de l'Europe, contrairement aux années passées. Du coup, on est un peu, pour l'instant, dans l'attente. Je ne vous cache pas.
Il faut dire que ça partait des États-Unis, cette marche mondiale, et donc là-bas, ils revendiquent un petit peu moins, ou ils ont plein d'autres choses actuellement.
Non, ils ont switché sur d'autres jours, comme le 420, par exemple, le 20 avril. C'est plutôt ce jour-là qui suscite. Enfin, c'est plutôt là-dedans que se sont engagés les militants, en fait, pro-cannabis, plus que dans la marche mondiale. C'est beaucoup des affaires de personnes, hein, aussi, des gens qui lancent des mouvements, qui après arrêtent pour x ou y raison, qui repartent sur d'autres événements, voilà. Donc bon, c'est un peu chaotique, mais ça l'a toujours été, hein. C'est pas très nouveau. Donc bon, pour l'instant, par principe on maintient ce samedi 29 avril comme étant le jour de la marche mondiale du cannabis à Lyon. Mais ça va peut-être changer. Je vous ai expliqué un peu tous les soucis qu'on a. Encore une fois, c'est compliqué parce que il n'y a pas non plus énormément de personnes en France qui animent cette lutte. Qu'on a perdu quand même quelques forces vives ces derniers mois, et que ceux qui restent à essayer de faire quelque chose sont bien occupés, sont bien pris, et n'ont pas forcément beaucoup de temps non plus. Donc voilà, c'est pas simple. En tout cas, la lutte continue malgré tout. Le cirque existe toujours, donc le collectif d'information de recherche cannabique, que vous pouvez toujours contacter au 06 11 53 10 07. On a là encore toujours des petits problèmes de téléphone, mais je crois que c'est réglé. On a quand même quelqu'un qui va s'atteler à la tâche, me semble-t-il. Enfin, c'est pas me semble, hein, j'en suis certain. Et donc, je pense que vous pouvez appeler ce numéro à présent. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez visiter notre site internet qui certes n'est pas vraiment remis à jour, mais il fonctionne toujours. Si vous allez dans l'espace revue de presse, vous verrez que toutes les infos sont à jour. Donc www.cirque-lyon.fr, pouvez nous écrire par voie postale, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605, Villeurbanne, Cedex. Voilà. Et maintenant, eh bien, comme
on va vous parler donc de ce soir de pas mal de petites choses. Un article de fond dans Libération, dans Le Parisien, qui fait dans les sujets présidentiels ou présidentiels,
plutôt, oui.
Ou pendant cette campagne. Et donc, il parle donc, faut-il légaliser le cannabis, une idée fumeuse ou pas. Un dossier qui est pas trop mal fait. Bon, voilà, on reviendra là-dessus. On aura aussi le maire UDI, William Delaunay, maire de
Delannoy, Delannoy.
Delannoy, qui est maire de Saint-Ouen, maire UDI, et qui veut faire quelque chose contre la drogue, et il dit que c'est, il conclut par c'est une vraie guerre et ce sera long.
Il n'a pas
sûr
compris.
Si, voilà, il n'a pas tout compris au schmilblick. Heureusement, il y a des gens comme Esther Benbassa qui travaillent sur un sujet comme l'Europe est-elle condamnée à l'impasse? Donc, quelque chose de pas mal. Oui, voilà, la charnière actuellement dans ce qui se passe dans le monde. Voilà. On ira aussi après faire un petit tour dans Suisse avec deux articles qui nous parlent de ça, d'un cannabis légal, le plaisir sans la défonce. Ou un cannabis light, comme l'écrit Le Monde. Donc en fait, c'est un THC à moins de 1% de THC, donc légal, mais avec pas mal de CBD, donc 20%. Donc c'est un cannabis très très bien pour le thérapeutique.
Bah, légal en Suisse. Hein, parce
que, légal en Suisse.
Bah, en France, il faut qu'il fasse 0,2. S'il est à plus de 0,2, s'il est à 0,5, 0,8, il n'est pas légal.
C'est bien, tu as raison de me rappeler ça, que le taux légal en France est plus bas encore. Voilà, après on ira faire un tour sans doute avec le cannabis thérapeutique. Bon, on était déjà dedans avec ce qui se passe en Suisse avec ces herbes avec beaucoup de CBD. Donc la France avance, l'Allemagne avance par contre,
la France recule.
Voilà, on fera le point sur le Sativex, vous savez, qui a eu l'autorisation de mise sur le marché il y a déjà 3 ans et que l'on ne trouve toujours pas. Et puis on ira faire on ira vite là parce qu'il y aura beaucoup de choses. Il y a le Portugal a gagné la lutte contre la drogue en ne la menant pas, donc un article très intéressant, très très bonne vision des choses. On verra si on parle du Paraguay et de cette petite tribu autochtone, les Payes Tonitera. Tonitera, qui ont quelques soucis parce qu'ils sont en zone frontalière et il y a beaucoup de trafiquants, des gens qui viennent s'approprier leurs terres pour faire pousser du cannabis. Bref, ils ont pas mal de petits soucis. Et puis on finira par la Tunisie, qui est en train d'avancer et qui va sans doute amener un amendement à la loi 52. Donc c'est une loi qui en Tunisie oblige même les juges à mettre au minimum 1 an à toute personne prise avec du cannabis ou en train de fumer. Donc voilà, et donc ça serait, elle serait amendée pour que les juges puissent avoir une prendre en considération la situation, des circonstances atténuantes, etc., pour ne pas arriver à de telles extrémités, telles qu'on en a parlé la semaine dernière,
de ces deux lycéens de à peine 18 ans qui devraient passer leur bac au mois de juin, et qui, malgré un soutien important de la société civile, de plusieurs avocats, n'ont pu échapper à une peine d'emprisonnement de 1 an ferme, conformément à la loi 52. Qui donc doit être réformée, c'est sûr. La loi de 52, la loi de 70 en France aussi, on attend qu'elle soit réformée. Ça se trouve, la Tunisie va réformer ses lois sur les drogues plus rapidement que la France.
Ah, on est bien parti pour être les derniers.
Les derniers des derniers. On va changer en même temps que les Philippines ou
voilà, juste avant
les Émirats Arabes
de passer un petit peu de musique, juste un petit rappel aussi, quoi, une petite conclusion par rapport à une histoire dont qu'on a évoqué la semaine dernière, de ce policier qui avait volé 48 kilos de cocaïne. 48,5 kilos, pardon.
En tout, 52 même. Hein. Emballage compris.
Voilà, tout à fait. Donc il a sorti tout ça du 36 Quai des Orfèvres.
Entre le 24 et le 25 juillet 2014.
Voilà, donc ça, on en avait parlé à l'époque, hein, il s'était fait attraper. Et donc, qu'est-ce qu'on peut...
Il a été condamné à 10 ans de prison. vendredi dernier, ce policier. Et il avait un complice, enfin quelqu'un qui était chargé d'écouler en fait la marchandise, mais qui lui ne savait pas d'où elle venait. On a vu ça un petit peu. Donc cet individu qui a donc participé, qui a reconnu avoir participé à l'écoulement de la cocaïne, a été condamné, que je retrouve, à 5 ans de prison. Voilà. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Dernièrement, vendredi dernier, en fait, tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en introduction de Cannabis Circus ce soir, 20 mars 2017. Et on va s'écouter un peu de musique. Ah oui, mais mon camarade est au téléphone, alors c'est un truc à pas faire.
Merci beaucoup, beaucoup à vous, merci d'être venu. Et si c'est les éjectés, j'espère que ça va bien pour vous. Ça là est une spéciale dédicace à tous les fumeurs de hashish et de marijuana. Ce vide à l'aide en vie. Monsieur Maggi était assis sur le rebord de nos plis. Assis, assoupli, assoupli. Les lèvres pincées sur un ghosty. Je sais que c'est pas une vie de faire le conducteur. Don't bug at the joint. Don't bug at the joint. Don't bug at the joint. Les lèvres coincées sur un costume. Je sais que c'est pas une envie de faire le con toutes les nuits. De décharger, de tout monter, de balancer et de jouer. De démonter, de recharger et de temps en temps.
Il a tellement d'étoiles.
Il a tellement d'étoiles qu'il les ont plantées sous le comptoir. The bug of the joint. The bug of the joint.
Si, ça y est, il arrive. Je croyais que j'avais pas de son et j'en avais pas, en effet.
T'avais pas monté
donc,
le bon.
On vient de s'écouter.
Une chanson.
Une chanson, oui, tout à fait. Oui, c'est bien ça. C'est bien les éjectés. C'est bien Don't Bogart the Joint. Je voulais être sûr de pas me tromper et de ne pas. Voilà.
Alors, juste avant de de couper pour la petite coupure musicale, je vous disais, j'étais en train de dire avant que tu me coupes le sifflet, que on avait un appel téléphonique et que voilà, c'était mieux de nous appeler pendant la coupure musicale plutôt que un peu avant. Voilà.
Après, ça me perturbe un petit peu. Voilà, mais en tout cas, c'était une info intéressante a priori, donc sur la Croix-Rousse vers l'hôpital.
Alors, c'est un auditeur qui nous appelle pour nous informer que le XAPA, qui est le service addicto de l'hôpital de la Croix-Rousse, donc bâtiment D, premier étage, pour les personnes qui ne sauraient pas où ça se trouve. Voilà, au XAPA de la Croix-Rousse, on peut faire du testing de produits.
Et a priori même du cannabis, mais bon, c'est... Voilà.
Alors,
on va vérifier les conditions, tout ça, on vous en dira un peu plus.
Je croyais que ça se faisait plutôt... parce qu'effectivement, il y a un programme qui a été lancé depuis l'année dernière. Et voilà, un programme un peu de collecte et de test de substances qui est managé par quelqu'un qui vient de Post Diabolo, je crois, que j'avais rencontré dans le cadre de mes activités professionnelles l'année dernière, mais bon, il se passe tellement de choses et que j'ai probablement pas tout, ou je me rappelle pas de tout, mais en tout cas, oui, c'est bien possible. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, le mieux, c'est encore d'appeler. Je pense que c'est mieux même que d'y aller, parce que vous risquez, si ça marche pas, vous risquez de vous être déplacé pour rien. En tout cas, de contacter le XAPA de l'hôpital de la Croix-Rousse, et d'avoir par téléphone une confirmation de cela, donc de savoir si on peut effectivement faire tester des substances. Alors, il y a un certain nombre de conditions pour les faire tester, vous leur demanderez lesquelles exactement, mais vous pouvez pas comme ça vous amener avec tout un tas de produits pour qu'ils vous les testent. C'est pas non plus le principe, me semble-t-il. Voilà, mais en tout cas, c'est bien probable qu'ils le fassent. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc de notre revue de presse.
Voilà,
ce soir.
Avec un article du Parisien.
Assez intéressant.
Ouais, thème de campagne, ça s'appelle, et donc le titre c'est « Faut-il légaliser le cannabis, une idée fumeuse ou pas ?» Donc c'est écrit par Christine Mathéus. Voilà. Donc, aujourd'hui, la proposition de légalisation du cannabis donc, est sur la table et dans les préoccupations des Français. Des candidats l'assument. Alors, il faut arrêter avec le tour agressif, loin d'être simple, à en croire médecins et parents. Donc, première chose d'introduction, ça part bien, le constat est sans appel. Depuis la loi de 1970 interdisant le cannabis, il n'y a jamais eu autant de consommateurs en France. Alors, point d'interrogation, statu quo, maintenant l'interdit ou non, de la protection de la santé, dépénaliser, voire légalisation, seule arme efficace selon ses soutiens. Donc, selon nous aussi. Il défile un petit peu tout en parlant de Dan Coppel, la sociologue, qui explique ils prennent juste une phrase, hein, il y a les défenseurs de l'ordre moral d'un côté, libertaires de l'autre. Le débat public est enfermé dans des positions de principe. Tout à fait, c'est Anne Coppel, la fondatrice de l'Association française de réduction des risques.
Voilà, qui était
au salon Prime Vert, il me semble,
il y a 15 jours. Qui était venue de Paris.
De plus en plus de Français veulent ce débat. L'année dernière, il y a eu un tournant avec l'intervention d'un pneumologue, le professeur Bertrand Dotzenberg. Il dit aujourd'hui le cannabis en France, c'est de l'alcool frelaté du temps de la prohibition. Non seulement c'est mauvais, mais c'est encore plus dangereux s'il n'y a pas de règles. En tout cas, c'est un produit dangereux, plutôt, dit-il, et il faut des règles. C'est à peu près la même chose. Donc, de plus en plus de gens donc parlent de légalisation contrôlée. 150 personnalités marseillaises ont lancé un appel là-dessus. Voilà. Mais de l'autre côté, évidemment, il y a ceux qui sont contre. Toujours le fameux Jean Constantin, un toxicologue, président du Centre national de prévention.
Donc, d'études et de recherches sur les toxicomanies.
Il parle de la et lui, sa phrase, c'est la légalisation d'une drogue ne calme pas les sujets transgressifs. elle les contraint à effectuer la transgression au niveau d'une drogue encore plus dure. Oui, mais c'est assez absurde, ça doit représenter juste quelques pourcents de la population. Michel Simès, lui aussi, a dit des bêtises, on lui avait répondu d'ailleurs. Donc lui, il rappelait les dégâts que ça fait sur les neurones des ados. Je ne vois pas comment un médecin peut être pour la légalisation de la consommation. Vu qu'on légalise pour les adultes, je vois pas qu'est-ce que ça va changer pour les ados. Surtout que les ados, c'est quand même ceux qui fument le plus en France.
Oui, voilà. Cette loi, en fait, ne protège personne.
Et surtout pas les ados.
Et surtout pas les ados, ni même les personnes fragiles. Au contraire, c'est plutôt, on le sait bien, souvent ces personnes-là qui vont être les premières touchées dans un cadre particulièrement répressif et prohibitif. Donc non, ce que tous ces gens disent, Constantin, Simès,
Ruffo,
mais c'est du flan.
Qui veulent juste protéger les ados, qui est une absurdité totale, nous sommes bien d'accord.
Ça fait plus de 30 ans qu'on sait très bien que ça ne marche pas comme ça.
Et donc l'article continue sur le pragmatisme des économies. Le pragmatisme des économistes, donc avec des think tanks comme Terra Nova dont on a déjà parlé, qui sont pour la légalisation avec pour eux 1,3 à 2,1 milliards de dollars de recettes fiscales, voilà. Plus 13 000 emplois, je pense qu'ils sont bien en dessous de la vérité avec leurs 13 000 emplois.
Créés dans le commerce, ils ne parlent que dans le commerce. Une fois, ils ne parlent pas du tout de la filière chanvre globale.
Tout à fait, il y a la culture, la transformation, etc. etc. En tout cas, la légalisation est la seule voie raisonnable pour les économistes, donc au moins c'est pas mal.
Mais pas que pour les économistes. On n'en a pas parlé très longtemps, mais le professeur et pneumologue Donzenberg, il n'est pas économiste.
Tout à fait, il est pneumologue.
Carlilac est psychiatre, il est psychiatre, et donc il n'est pas que économiste.
Là on est sur la conclusion de l'article, et sur la conclusion ils sont sur les économistes.
Tout à fait, j'insiste pour pas que les gens entendent et pensent que finalement il n'y a que les économistes qui sont progressistes, entre guillemets, sur la question.
Voilà.
Il y a aussi des politiques qui sont pour... on va y venir un peu plus tard.
Et donc là, il citait donc, la légalisation est la seule voie raisonnable. C'est l'économiste Emmanuel Auriol dans son ouvrage « Pour en finir avec les mafias, la sexe, la drogue et les clandestins, et si on légalisait ?»
Voilà. Mais il n'y a pas eu qu'Emmanuel Auriol non plus qui a proposé ça. On se rappelle, il y a quelques années, le maire de Sevran avec un flic, Serge Supersac. Et le maire de Sevran, je ne me rappelle plus de son nom, me rappelle du nom du flic, mais pas du nom du maire de Sevran, qui, pareil, lui aussi voulait légaliser, qui avait sorti un bouquin. Mais Michel Henry qui a sorti un bouquin aussi, pourquoi la légalisation est-elle inéluctable ? Bref, voilà, beaucoup d'ouvrages. Anne Coppel, dont on a parlé, qui parle aussi beaucoup de ça depuis au moins 25 ou 30 ans. Bref.
Oui, il y en a des livres régulièrement.
Il y en a pléthore, voilà.
Beaucoup d'études, et chaque fois qu'ils font un rapport d'ailleurs, ils l'intervident parce que les conclusions ne vont pas dans le sens qu'ils veulent. Voilà. Alors après, c'est un peu le Parisien continue, et après avoir fait parler les rapports et des gens un petit peu, un petit peu des spécialistes, aussi bien en médecine qu'en économie. Il se tourne vers le monsieur tout le monde un peu, avec différentes expériences, je sais pas si c'est ça, avec des gens, oui, il faut légaliser, utilisons l'argent pour la prévention et pour alléger les déficits publics, une femme d'une soixantaine qui dit ça... Pour elle, c'est une façon de conjuguer liberté dans les plaisirs et sécurité dans la pratique. Mais par contre, elle veut pas se laisser prendre en photo pour illustrer ceci. Donc le dossier est délicat. Donc après, ils interviewent différents parents, dont certains sont pour la légalisation avec... Donc lui, il est banquier, donc quelqu'un sans doute très dangereux,
mais oui.
Qui dit la pénalisation, ça mobilise les forces de police, légaliser, cela rapporterait du PIB et de la TVA et réduirait les coûts. C'est libéral comme mesure. lui, après, quand un autre dit « j'ai du mal à comprendre dans ce cas légalisant la cocaïne, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'un gamin fume ?» Donc moi je lui répondrai à ce monsieur « oui, oui, bien sûr, il faut aussi légaliser la cocaïne, pas du tout comme le cannabis, pas du tout dans les mêmes échoppes, mais là aussi il faut le faire. Et pourquoi ton gamin fume ? Eh ben ça, c'est parce qu'il a un mal-être, alors ça vient peut-être de toi mon gars, ou ça vient peut-être de problèmes qu'il a à l'école ou ailleurs. » Ou peut-être qu'il fume juste pour le plaisir, ça arrive aussi. Voilà, après il y a des mères aussi, certaines dubitatives, qui comprennent pas. Donc elle, c'est plutôt quelqu'un qui travaille dans la police, et elle voit tous les problèmes de la drogue, et elle rappelle surtout le cannabis cause des lésions irréversibles au cerveau, au niveau du cerveau. Bien sûr, il y a d'autres choses qui laissent des lésions irréversibles au cerveau. Après, il y en a une autre, Odile, 73 ans. Elle est avec ses petites filles,
légaliser sûrement pas.
Elle veut surtout pas que ses filles, mais bon, ses petites filles ne sont pas dans le même col, le confirme en cœur que le cannabis, il y en a dans toutes les soirées, et c'est simple de s'en procurer. Voilà, puis il y en a d'autres que ça choquerait pas. Elle voit qu'il y a des vertus médicales, donc il faudrait voir comment on vendrait le cannabis pour que les clients ne soient pas stigmatisés. Voilà, et enfin l'article finit un peu sur les études sur la santé, en parlant juste du THC, en rappelant que des études récentes indiquent aussi que la structure du cerveau peut être altérée chez des adultes ayant une consommation importante depuis un âge précoce.
Voilà. Je rigole parce que je suis en train de lire une déclaration là.
Et ça diminue aussi les capacités de mémoire, de concentration, de vigilance et favorise la survenue d'une dépression. Bref, voilà, ça, tout ça est bien sûr conditionnel. On vous en avait parlé de façon plus détaillée lors d'une autre émission avec plus d'études. Voilà, donc il y a un petit peu de vrai, c'est pas bon, surtout quand on est adolescent, de trop fumer, comme il est pas bon quand on est adolescent de trop boire, parce que les dégâts sur le cerveau en formation sont aussi désastreux avec l'alcool qu'avec le cannabis.
Donc, tu l'as lu là, ce commentaire d'un père qui dit que plutôt que légaliser, il faudrait donner des modèles aux jeunes. J'aime bien le père qui dit... Bon, il dit quand même que ça a peut-être des vertus médicales. Il faut peut-être en vendre sur ordonnance. Mmh. Mais plutôt que de le légaliser, on ferait mieux de donner aux jeunes des modèles. Des sportifs, par exemple, qui véhiculent des images positives. Alors là, ça me fait marrer. Des sportifs, des images positives. C'est vrai qu'ils ne se droguent pas du tout, les sportifs.
Oui, surtout dans les troisièmes mi-temps.
Ça, c'est encore extra sportif. Mais dans le cadre du sport... C'est bien connu, il ne boit que de l'eau. Des grosses cuisses et des gros bras. Non mais c'est... J'ai du mal, quoi. Je me demande. Bon, je pense que pour l'article, ils ont choisi un peu des témoignages très très très... voire quasi caricaturaux. Voilà, puis alors la dernière déclaration de ce monsieur. Et puis si on vendait du cannabis dans les magasins, hein, les clients pourraient être stigmatisés. Ouais, enfin, sauf qu'une fois que c'est légalisé, globalement, le stigmate, il diminue quand même, cher monsieur. Bref, voilà, enfin, encore une fois, c'est des points de vue qui n'engagent que ceux qui les profèrent.
Voilà, moi je te propose, on va peut-être zapper les trucs trop politiques, on reviendra et on fera un sujet avec toutes les propositions de chacun des candidats. Même si on
sait. Ah bah, si tu veux.
Même si on sait qu'il y en a certains qui sont plus pour la légalisation que d'autres.
Donc, voilà, on dira voilà. Pas qui.
On fera le tour de tout le monde, le truc.
Bon, on l'a déjà fait, hein, je pense que c'est.
Oui, oui. Voilà.
Mais juste un petit truc quand même par rapport à ça. Je peux pas m'en empêcher. J'ai pas mis l'article parce que c'était pas un article en fait, mais c'était une déclaration de Macron cette semaine qui dit « Je n'ai jamais été en faveur d'une légalisation du cannabis. » Voilà. Ou même de sa dépénalisation. Donc
lui il avance, il marche, mais il marche pas toujours tout droit et toujours pas forcément en avant. Voilà. Bref. Et plus à droite, de toute manière, ils sont contre, et plus à gauche, ils sont plutôt pour.
Ouais, non, mais tout ça pour
les,
dire.
Les deux derniers, Hamon et Mélenchon, sont plutôt pour la légalisation. Ouais. Les petits candidats, on reviendra dessus, il va falloir qu'on étudie le sujet. Parce que je ne connais
en tout cas,
pas
pour ce qui concerne Macron, je saisis cette opportunité de le dire, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensent que Macron, c'est un progressiste, que grâce à lui, il va y avoir des projets de société, il va légaliser. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas du tout progressiste, en fait, voire dans son programme économique, il est assez proche de Fillon, en fait. Voilà, qu'on se le dise. Ensuite.
Ensuite, toujours dans le Parisien, c'est William Delannoy, le maire UDI de Saint-Ouen.
Delannoy.
Delannoy. Delannoy. Saint-Ouen ne doit plus être l'Eldorado du cannabis, donc on en a parlé un petit peu ces jours-ci, parce qu'un gymnase Julio Curie a été fermé temporairement parce que c'était devenu un lieu de vente a priori connu de tout le monde, c'était au fond d'une impasse, c'était a priori bien pratique. Donc ils vont mettre des moyens pour sécuriser, donc William Delannoy est plutôt contre la légalisation a priori, donc il demande, il a des problèmes avec beaucoup de zones de sécurité prioritaires, des ZSP.
Bah, parce qu'il y en a, il y en a 8 dans sa ville.
Voilà, donc il installe des caméras un peu partout dans Saint-Ouen, a priori, pour que la ville de Saint-Ouen ne soit plus l'Eldorado du cannabis. En tout cas, il finit en répondant aux habitants qui se sentent abandonnés. Ils ne doivent pas penser à ça, et la mairie donc fait face à un phénomène qui s'est incrusté dans notre ville depuis 10 ans, au moins depuis... Il y a un travail de fond à faire dans le cadre de la politique de la ville et la rénovation urbaine avec les associations. C'est une vraie guerre et ce sera long. Oui, ça fait 40 ans, voire 50 ans que cette guerre est menée et elle n'a toujours mené à rien et les résultats sont totalement négatifs à
46
tout point
ans
de vue.
Pour l'instant.
Voilà ce que je lui répondrai. Donc, s'il est encore à guerre à la drogue, à mon avis, Saint-Ouen est mal barré.
Ouais, puis alors en plus j'ai l'impression qu'il débarque le gars, parce que visiblement ça ferait que 10 ans que ça se passe comme ça à Saint-Ouen. Moi je pense que ça fait bien plus longtemps déjà. Voilà. Et juste après, bon je vais pas le plaindre, mais on peut quand même comprendre qu'il y ait des élus locaux qui se sentent désemparés par rapport à tout ça, parce que ils ne peuvent rien faire. C'est quand même ça le problème. Ils ont beau appeler au secours la police, le ministère de l'Intérieur, bref. C'est aussi ça le problème de la prohibition, c'est qu'en fait, ça rend impuissant, on ne peut rien faire. À partir du moment où on refuse de contrôler la situation, il n'y a rien à faire. Voilà, on subit. Et en tout cas, voilà, certains élus locaux, comme lui... Gatignon, voilà, j'ai oublié, c'était le nom du maire de Sevran qui avait.
Mais lui avait compris qu'il fallait légaliser pour s'en sortir.
Voilà, mais lui,
alors que ça n'a pas l'air d'être le cas de The William de la Noire.
Mais ceci dit, Gatignon, en 2010, il était aussi très désemparé et il voulait même l'intervention de l'armée dans dans sa ville. Voilà, donc parce qu'il sentait bien qu'il pouvait pas faire grand chose. L'armée n'est pas venue à
se voir. Pour finir là, un peu ce qui se passe en France, on parle de légalisation du cannabis. L'Europe est-elle condamnée à l'impasse c'est un article
de VIH.org qui est écrit par quelqu'un que je ne classerai pas dans la catégorie des progressistes. Malgré que quand on lit l'article, on a l'impression qu'il le soit. C'est Didier Gell. Didier Gell qui a été président de la MILT, avant la MILT DECA. Président de la MILT sous Chirac entre 2002 et 2007.
Oui, tout à fait. Donc c'est lui qui publie ça d'ailleurs.
Il a pas honte le gars quoi.
Donc il vient de le publier le 17 mars, mais c'est par rapport à une journée de débat qui a eu le 16 octobre 2016. Donc c'est quand même déjà assez ancien. Il écrit quand même: la légalisation du cannabis est en marche dans de nombreux pays inéluctablement. Quand et comment se sera-t-elle en France et en Europe? Quelles réflexions et quelles démarches sont nécessaires pour passer du débat à la réalité? Donc voilà, il rappelle donc cette journée qui a eu lieu à l'initiative d'Esther Benbassa, sénatrice LV, donc qui a déjà beaucoup travaillé et essayé de faire passer un projet de loi pour la légalisation du cannabis. Il y avait aussi lui-même, DJ Gel, professeur titulaire de chaire d'addictologie. Il y avait aussi Henri Bergeron,
ça c'est une pointure,
professeur et qui a une chaire santé à Sciences Po. Voilà, donc nous sommes à une période charnière, écrit-il, un mouvement mondial qui vient des Amériques bouleverse le statu quo de la prohibition. Après l'Uruguay, 4 États américains ont légalisé et 4 autres de nouveau, dont la Californie. Voilà, donc la Californie, il faut le rappeler, avait été aussi le premier État à autoriser le cannabis thérapeutique. Il y a maintenant 23 États américains qui l'ont suivi.
Mais pas que,
voilà. Donc il y a aussi, bien sûr, Canada, Australie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne et d'autres, mais pas la France. Même l'Allemagne s'y met, nous allons revenir dessus.
Ouais, c'est marrant, on n'est pas cité la Nouvelle-Zélande.
Oui, mais il y en a beaucoup plus que ça.
C'est vrai.
Et d'autres, il y en a beaucoup d'autres.
Mais il y en a quand même d'autres qui où ça avance pas, hein, aussi. Hein, juste pour, il n'y a pas que la France où ça avance pas, voire même où ça recule. Hein. Je pense aux Philippines, par exemple, avec le nouveau président Rodrigo Duterte, qui a quand même trouvé le moyen de faire emprisonner son opposante dernièrement. Une de ses opposantes.
Donc revenons-nous à cet article de DJ Gel qui rappelle donc que nous sommes à une époque charnière et qui rappelle que c'est les États-Unis qui portent la prohibition et les conventions internationales et c'est le seul pays qui a fait de la question des drogues une priorité de la politique étrangère.
Mais depuis 100 ans.
Alors qu'ils vont pas pouvoir continuer à soutenir un système qui sera appliqué dans le monde entier sauf aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est la vision qui est pas inintéressante. Il rappelle aussi l'UNGAS qui est aussi donc la session spéciale de l'ONU qui a lieu en mai 2016.
Voilà, session extraordinaire.
Donc ils sont pas encore pour la légalisation, loin de là, mais ils avancent et ils sont plus pour l'éradication des plantes. Ils se sont rendus compte que c'était débile et ils veulent donner une priorité à la prévention et aux soins, à la lutte contre le trafic. Voilà, mais il faut pas emprisonner quand même les consommateurs et ni les tuer non plus comme ça se passe aux Philippines de manière dramatique. Voilà, donc et il écrit même, la légalisation du cannabis apparaît inéluctable. La question n'est pas de savoir si elle se fera, mais quand elle se fera et surtout comment elle se fera. Et là-dessus, nous le rejoignons totalement.
Tout à fait.
Voilà, donc
ça aurait été bien s'il avait pu être comme ça quand il était président de la MILT. Ça me tue, moi.
Dans le débat, ils sont expliqués, il s'agit de construire un nouveau modèle pour sécuriser l'usage récréatif, aujourd'hui si répandu, en prévenant les risques associés à l'usage et surtout à l'usage abusif, d'offrir des réponses médicales et sociales adaptées et de réduire les graves problèmes de sécurité publique générés par le plus important marché illégal de ce pays, source de violence, de corruption et de dépenses inutiles. Eh ben, c'est une phrase qui est dense, hein. Il en dit des choses. Mais c'est vrai, Gel qui avait pris la direction de la MILT et qu'il avait un peu gelé à l'époque, après Nicole Maestrachi qui avait fait évoluer un petit peu la structure, a quand même pas mal évolué. Mais comme beaucoup de gens, quand ils ne sont plus au pouvoir, hein, beaucoup de chefs d'État sous-africains...
On va pas lui dire merci à Gel quand même. Il a été l'un des grands artisans du retour de la diabolisation du cannabis au début des années 2000, quoi.
Oui, il a fait jeter au pilon le savoir plus, risquer moins.
Voilà, sous l'époque
de Nicole Maestrachi, oui.
Ah, lui, il était allé plutôt dans le sens du sénateur Plazet qui avait écrit un bouquin « Cannabis, l'autre cancer ». Ah. Je me méfie, moi, de ces gens-là, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je suis un peu circonspect, quand même. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il écrit là dans cet article est super bien. Ce qu'il écrivait avant d'être président de la MILT, alors qu'il était directeur d'une revue qui s'appelait Swaps, sur les usages de drogue aussi, il a écrit des articles très intéressants. Alors.
Bref, en tout cas, pour construire leur nouveau modèle de société, ils ont même invité des gens qui viennent des États qui ont déjà légalisé. Donc, Ethan Nadelman, Serge Brochu ou David Weinberger, que je ne connais point, sont venus témoigner à cette conférence. Alors, ils ne se font pas d'illusions, hein, le chemin sera encore long et difficile. Ils ont besoin d'être tenaces, solides sur les bases scientifiques et courageux.
Et donc, voilà, il dit on entend encore toujours une majorité de personnes qui disent. Mais c'est mauvais le cannabis, surtout pour les jeunes. Hein. Il ne faut surtout pas l'autoriser.
Et c'est un faux débat, ça.
Et oui, parce que le cannabis est là, c'est une réalité. Hein. C'est selon le slogan de la campagne que Monsieur Gell avait lancé en 2004. Et en plus, il s'en tire la gloriole. Alors là, ça...
Bah oui, c'est vrai, le cannabis est une réalité, oui, mais il a rien fait contre, et c'est pas la répression qu'il a mis en place avec Sarko lui, qui a changé les choses.
Gell, à l'époque, ils avaient beaucoup travaillé sur la répression routière du cannabis.
Voilà.
Donc il est bien là, ce cannabis, disponible, hein, une majorité de jeunes l'ont au moins expérimenté une fois. Et on ne peut pas imaginer, dit-il, un plus mauvais système que de confier la distribution à des réseaux mafieux et de laisser infiltrer les quartiers déjà les plus en difficulté par un trafic de fourmis omniprésent. Voilà. Et un des objectifs sera justement de limiter l'accès des plus jeunes, et c'est sur cette question que les modèles seront jugés et adaptés. Voilà. Il faudra aussi des campagnes d'information, de prévention, blablabla, et on sait bien. Et celle campagne de prévention en France date de 2004-2006, 10 ans. C'est-à-dire quand il était président, comme par hasard. Comme par hasard. Voilà. Et rien depuis. Voilà. Ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai.
Je suis désolé, pendant les époques où c'était Étienne Appert qui était président de la MILT, il y avait aussi des campagnes d'information ultra diabolisantes. Voilà. Ces campagnes, nous dit M. Gell, ont eu pour effet de modifier les représentants du cannabis, qui n'est pas un produit anodin, surtout quand il est consommé de manière intensive et chez les plus jeunes.
D'autant plus la bonne raison pour légaliser le cannabis, pour tout le monde, surtout pour les adultes, et faire en sorte de réfléchir à ce que les jeunes en usent moins, de la même façon que pour le tabac et pour l'alcool. Voilà, donc il continue, si la prohibition est un frein à la prévention pour les usages festifs, elle l'est aussi pour le cannabis thérapeutique. Donc il rappelle que...
Il reconnaît que les médecins français, globalement, ne s'y intéressent pas. Voilà, un peu comme si le caractère illégal du cannabis le rendait indigne d'intérêt thérapeutique. En tout cas, en France, c'est le cas.
Voilà. Donc il conclut et cela avant tout il faut un vrai débat national. C'est un argument de poing pour ouvrir le chantier. L'objectif de cette rencontre est de donner des pistes, de casser les idées fausses, de répondre aux questions concrètes de ce qui changerait si on légalisait, pour la prévention, pour la police et la justice, et pour l'économie qui va si mal, sauf pour les trafiquants. Voilà. Donc c'est vrai que ça aurait été bien qu'il applique tout ça quand il était au pouvoir. Voilà.
Et donc Monsieur Didier Gell réclame l'ouverture d'un débat 26 ans après le cirque.
Ouais.
Bah oui, parce que c'est le
et
cirque.
Et après l'avoir interdit quand il était...
Quand il était directeur de la MILT.
Voilà, et puis
bravo,
sinon lui, il rappelle un peu les termes. Donc il met dépénalisation, contraventionnalisation et légalisation. Donc, dépénalisation, c'est le fait d'abolir les sanctions pénales sur certains actes. La contraventionnalisation, pour lui, c'est une forme de dépénalisation. Donc, au lieu de mettre une peine de prison, c'est les peines, c'est les amendes. Et enfin, la légalisation, ça consiste à rendre légale la possession.
Et la consommation.
Oui, ou à rendre légaux la possession, l'usage et la vente du cannabis. Ouais, voilà,
sous certaines conditions, dans certaines règles. Dans certains
voilà,
cadres.
Donc d'où une légalisation contrôlée. Bref, une légalisation avec des règles et bien faite pour que ça ne soit pas, si on l'enlève aux mafieux, que l'on ne le donne pas aux multinationales qui ne valent guère mieux au point de vue de la qualité des produits. Voilà, allez, on va se remettre un petit coup de musique et puis on revient pour faire l'international sur la fin de notre émission. Et voilà, on vient de s'écouter Orange Street, One et One Culture, je crois. Et il y a un signe qui ressemble à pas grand-chose. Donc je sais pas comment ça se prononce. C'est en train.
N'en dis pas plus.
Voilà.
Ça suffit.
Donc on revient. Font chier
ces artistes à faire des morceaux avec des noms en anglais, franchement. Pas. Bon, allez, parlez de la Suisse maintenant. Voilà.
La Suisse, oui, bah, on va en parler vite. On a deux articles, on va pas les lire in extenso, mais c'est assez intéressant ça. Bah,
il se passe des choses en Suisse.
Voilà. Alors, c'est comme tout, hein, c'est presque légalisé. Ils sont revenus un peu en arrière, ils ont mis leurs 5 piliers en route. Donc, beaucoup moins de répression quand même. Ils ont fait de la répression contre les trafiquants et surtout bah, sur ceux qui s'étaient mis un peu en avant. Donc quand même, certains cannabiculteurs ont fini en prison, comme celui du Valais, bah,
Bernard Rapa,
notre dernier, voilà, ouais. Qui je crois est quand même sorti maintenant, si
ouais,
je me trompe pas.
Il y en a un qui a eu des soucis, c'était André Wurst aussi.
Tout à fait, voilà. Voilà. Donc,
des pionniers de la cannabiculture helvète, et qui voilà, faisaient des très très belles choses, hein, vraiment.
Mais bon...
C'était il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans, et là ça revient, hein. Ouais. Donc
c'est reparti un peu.
On voulait vous parler la dernière fois, je crois que c'était à Berne qu'ils allaient faire, il y avait des cannabiculteurs qui voulaient, des fumeurs qui voulaient se remettre à trouver une solution entre eux, et là en fait c'est à Lausanne, c'est le gérant du shop La Belle Verte, qui a ajouté il y a 6 mois du cannabis légal, c'est-à-dire à moins de 1% de THC dans ses rayons. Et il dit maintenant, il y a plein de clients nouveaux, des personnes que je pensais jamais voir dans ma boutique, des hommes en costard-cravate, des vieux, des mères de famille, etc. Et donc, il y a un tel succès qu'il y a eu de la rupture de stock. Il y a pas mal de marques, hein, qui se multiplient maintenant. C'est Pure, Canalys, Empty, Buds... Voilà, donc le gérant a au moins 7 points de vente à Lausanne. Hein. Et donc c'est de l'herbe qui est vendue de 2,6 à 20 francs le gramme, suivant la variété et la teneur en cannabidiol. Ouais. Puisque ces herbes n'ont pas de THC, mais ont du cannabidiol. Donc, vous savez, c'est surtout les Israéliens qui l'ont mis en place, ou qui ont fait beaucoup d'études là-dessus. Et qu'ont sorti ces herbes très riches en cannabidiol et très pauvres en cannabinoïdes et en THC, en tétrahydrocannabinol. Ouais. Donc l'avantage de tout ça, ça s'utilise de plein de manières, hein, en crème, en huile, en succès tanné de tabac. Certains le fument et beaucoup le vapotent. Et surtout, les gens qui l'utilisent, ce sont des sportifs de haut niveau qui utilisent le CBD parce que c'est bon pour les muscles. Il y en a d'autres qui, pour améliorer leur sommeil, c'est Alexandre par exemple, qui de 1 à 3 joints par jour est passé à 3 prises de CBD par semaine. Et donc qui dit, là tu sens que c'est de l'herbe, tu conserves le plaisir sans la défense. Sans la défonce, voilà. Donc ce n'est pas une molécule enivrante, le CBDiol, le cannabidiol. C'est une herbe qui agit principalement sur les muscles qui amènent une détente musculaire. Voilà, mais qui ne joue pas sur la concentration, sur la mémoire. Voilà. Si je me souviens bien, le cannabidiol agit aussi sur les stress post-traumatiques. Hein. Si
je crois que c'était celui-là aussi. Ça peut avoir un effet, oui, effectivement. Ouais.
Voilà. Donc l'avantage de cette méthode suisse, en tout cas, c'est souvent du bio. Il est traçable et il peut remonter toute la chaîne de production pour savoir qui a planté ce que la personne consomme. Voilà, il rappelle que sur le marché noir, donc ça c'est Nicolas Chanusso qui dit que c'est important cette traçabilité, puisque sur le marché noir, le cannabis est frelaté avec... on a même vu des fibres de verre à l'intérieur du THC.
De quoi, excuse-moi, je te...
On avait même vu des fibres de verre sur des herbes.
Des billes de verre.
Des billes de verre,
pas
oui.
Des fibres.
Il dit des fibres de verre, mais il y a eu aussi des billes de verre.
Oui, surtout, hein, parce que les fibres de verre, c'est pas très lourd, alors que les billes de verre, c'est plus lourd, et c'était aussi pour ça.
Et c'est sans doute plus mauvais.
Utilisé, oui, oui.
Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'acheteurs de chambres qui ont des motivations thérapeutiques, hein, surtout pour ce THC-là, mais en tout cas, c'est très utile pour pas mal de maladies. Et en tout cas, ça a l'air de prendre de l'ampleur. Voilà, donc il va jusqu'à 20% de cannabignol, nous apprend aussi l'autre article
du Monde.
Du Monde. Voilà, là il rappelle que voilà, c'est dans cet article, en citant donc Barbara Brouwers, chef de service toxicologie aux hôpitaux universitaires de Genève, qui explique que le cannabidiol est surtout connu pour ses effets anti-anxieux et calmants. Voilà, sans parler évidemment de calmants pour les contractions musculaires. Voilà, donc on l'utilise dans des gâteaux, on le fume, on le vapote. Voilà, il peut s'appeler Dr Green, Wallis Woods ou Canalise. Encore trois autres noms. Il y a aussi la CBD livraison, donc qui a lancé un truc là-dessus. Et lui, en deux mois, il a écoulé plus de 500 kilos de CBD. Donc, comme quoi, ça marche. Mais pour l'instant, on n'a pas remarqué d'afflux d'étrangers qui viennent acheter ça. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cet article. Et la personne de CBD Livraison a dit, lui, il se tient prêt. Dès que les autorités françaises me donnent le feu vert pour vendre du cannabis légal, j'ouvre une boutique à Paris. Voilà, donc une histoire qui avance un petit peu en Suisse.
Voilà, alors, encore une fois, avec du cannabis faiblement ou pas dosé en THC, enfin, très faiblement dosé en THC. Voilà, c'est une expérience qui est menée dans quelques grandes villes suisses, hein, on en a déjà parlé. Voilà, c'est parti, ils tentent l'expérience voilà, en grandeur nature. Quoi.
Là, ils sont dans la légalité, hein. Le cannabis thérapeutique est autorisé, et comme il n'y a que le cannabis avec plus de 1% de THC qui est interdit, celui-là, par défaut, est autorisé.
Voilà, alors, juste
c'est
quand
comme
même...
ça qui résonne en Suisse, hein, mais ça tient la route. Hein.
Ça tient la route. Après, il y a quand même un peu de THC, alors 1%, hein, enfin, ou jusqu'à 1%, il faut aussi rappeler que quand même selon les pathologies le seul CBD n'est pas efficace
et tout à fait dans le sativex d'ailleurs il n'y a pas que du cannabidiol, voilà. Il y a aussi du THC
et ce qui fait que il y a un intérêt thérapeutique avec le cannabis c'est que justement il y a plus qu'un cannabinoïde.
Mais non, voilà. Là c'est des herbes, donc il y a un peu tous les cannabinoïdes.
Voilà, et donc c'est ça qui fait que c'est efficace. Donc voilà, vouloir à tout prix supprimer le THC, c'est pas forcément une bonne idée. Mais en tout cas, voilà, comme on disait en introduction de cette émission, en France, c'est 0,2% de THC. Au-delà, vous êtes en infraction. En dessous ou à 0,2, tout va bien. Mais du coup, là, ça veut dire que du cannabis suisse à 0,8 ou même 1%, est illégal en France. Voilà. Alors ce taux de... Je continue, hein, j'aurais finir là-dessus quand même, parce que c'est un gros mystère pour beaucoup de gens, mais voilà, ce chiffre de 0,2% de THC n'est pas tenable en France, n'est pas réaliste. Voilà. On sait bien, d'ailleurs les chanvriers français doivent acheter tous les ans, racheter leurs graines. Parce que s'ils utilisent leurs graines d'une année sur d'autres, là, le taux n'est pas stable et ne reste pas à 0,2% de THC. Voilà. Donc c'est bien une seule et même plante, contrairement à ce que voudraient nous faire croire un certain nombre de
voilà,
de
juste
gens.
Pour finir sur le cannabis thérapeutique, la France, l'Allemagne avance, la France recule. Donc en Allemagne, le cannabis, une loi autorise l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques depuis mars 2017. Donc pour des douleurs chroniques, pour des gens atteints de maladies graves comme le cancer ou la sclérose en plaques, ils peuvent, avec une ordonnance, le procurer ce cannabis et ses fleurs séchées en pharmacie. Et ils peuvent aussi avoir du sativex, hein, s'il y en a. Ou du dronabinol ou de la nabilone, des cannabinoïdes synthétiques. Voilà. Et les caisses d'assurance maladie remboursent ces médications. Voilà, ça c'est pour l'Allemagne où ça avance. Et par contre, en France, ça recule plutôt. On vous avait dit qu'en 2014, le Sativex avait reçu une autorisation de mise sur le marché. Ça n'a toujours pas vu le jour.
Voilà, mais c'est...
Le Sativex n'est toujours pas disponible dans nos pharmacies. Le prix qu'avait proposé le laboratoire était pourtant moins cher que celui pratiqué dans les autres pays européens. Mais bon, l'État français a classé le Sativex dans la catégorie 5 du service médical reçu, ce qui correspond à n'apportant pas d'amélioration dans le traitement des symptômes. C'est pour tout dire l'idéologie qu'il y a dans ce gouvernement actuel.
Alors, on ne sait pas si ça vient du gouvernement ou si c'est l'Académie de médecine.
C'est peut-être pression. L'Académie de médecine.
Eh oui, vu les ayatollahs qui la composent.
Qui est bien payé largement par les labos pharmaceutiques.
Voilà. Voilà pour l'Allemagne.
Voilà, parce que justement, l'article rappelle quand même différentes études qui sont sorties sur les qualités et sur le Sativex et sur ses résultats plus que probants. Donc, les malades français restent donc dans le système D. Voilà, donc aller en acheter dans un pays à l'étranger comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, hein, maintenant, ou alors le planter ou rentrer dans l'illégalité. Donc merci l'Allemagne française pour le cannabis thérapeutique et puis aussi pour le cannabis récréatif qui n'est pas très très... dont les nouvelles ne sont pas très très positives, sauf si certains arrivent à gagner aux élections présidentielles, mais rien n'est moins sûr. Voilà, on parlera pas du Portugal, on parlera pas non plus du Paraguay.
On essaiera d'en parler la semaine prochaine.
Tunisie, on vous l'avait dit en entrée un petit peu ce qu'il fallait en savoir et on reviendra dessus évidemment dans nos prochaines émissions.
Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus pour ce soir lundi 20 mars 2017. Et maintenant, comme tous les lundis soirs après Cannabis Circus, à partir de 22h, c'est Chasseur de Son. Chasseur de Son qui ce soir a des invités pour un live de musique électro, à ce qu'il me semble, vu le matériel que j'ai sous les yeux dans la cabine. Et donc voilà, Chasseur de Son, t'es passé où ? Il arrive en courant.
Allez,
bientôt. Allez,
ciao à tous.
À la semaine prochaine, au revoir.